Silence.
Piscine.
Racisme.
Sémantique.
Coiffure.
Cravate.
Oeil.
Chaussure.
Embuscade.
Interprétation.
Sagesse. Nu.
Perception.
Colonie.
Écouteur.
Chaussette.
Méchanceté.
Labial.
Radio.
Attentat.
Cellule. Aléatoire.
Thérapie.
Pouvoir.
Lazir.
Voyage. Ampoule.
Mayonnaise.
Piscine.
Suricate.
Convivialité. Jante.
Chaussure.
Bonjour, ça va ?
Et l'émission sera présentée par...
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes sur le 105.4 FM Radio Panique. Comme vous le savez tous, tous les deuxièmes jeudis du mois, nous enregistrons une émission qui se prénomme Bonjour, ça va ? Autour de la table, malheureusement, on a Élise.
Salut, bonjour à tous.
Arnaud.
Salut Adrie. Tout le monde.
Coucou.
Et Arthur.
Salut.
Voilà, comme vous le savez tous, on n'est pas en studio. On est confiné chez soi, chacun chez soi. Donc voilà, dû à ce coronavirus qui nous empêche de faire la radio correctement. Voilà, voilà. Et le mot qu'on a choisi pour aujourd'hui est le mot courant. Donc, on va parler du mot courant pendant une heure. C'est une émission à laquelle on tire un mot au hasard et on en discute pendant une heure. Voilà, voilà. Et je vais lancer Adeline qui va parler de sa chronique.
Ah, alors, Adeline n'est peut-être pas au courant. C'était
non, c'est Élise. C'est moi d'abord, ouais.
Mais merci, Ashraf. Tout le monde va bien déjà ?
Ouais, ça va, ça va.
Tranquille.
Ça se passe bien.
Dans le courant du confinement ou du déconfinement.
Enfin, beau jeu de mots.
Ça va, ça va, ça va.
Ouais, ça se passe bien. Est-ce que Élise, t'es chaude, t'es prête pour lancer pour, ma chronique?
Oui, je suis prête pour lancer ma chronique.
C'est parti, il me semble que c'est à toi alors.
Eh ben, c'est à moi de commencer. Donc, comme l'a dit Ashraf, on a pioché un mot au hasard. Donc, ce mois-ci, c'est le mot courant. Donc, au début, j'ai pensé au courant d'eau. J'avais pensé aussi voilà faire une chronique voyage comme la fois dernière, mais finalement non, c'est pas ce que j'ai fait. Le mot courant, ça peut faire penser aussi au courant d'air, d'eau, d'électricité, mais aussi au verbe courir tout simplement. Donc par exemple, on peut dire je suis venu ici en courant, chose qui me paraît totalement absurde parce qu'en fait moi je déteste courir. Je sais pas si autour de la table virtuelle vous aimez courir vous.
Non.
Je me sens moins seule. Eh bien, du coup, quand j'étais enfant, en fait, j'aimais bien. Mais depuis, sans doute, les cours de sport au collège, je déteste ça. Du coup, je vous ai préparé une petite chronique sur la course. C'est paradoxal, je sais, puisque j'aime pas ça, mais j'en parle quand même. Mais justement, j'ai trouvé ce sujet en pensant à mon neveu, Gabriel, 4 ans, avec qui j'ai passé ce confinement, et qui est bien une des seules personnes qui arrive à me faire courir. Donc j'ai décidé de lui poser quelques petites questions pour essayer de mieux comprendre pourquoi certaines personnes, et notamment les enfants, aime bien courir. Écoutons-le. Gabriel, aimes-tu courir ?
Oui.
Pourquoi tu aimes courir ?
Parce que je fais du sport et du coup j'aime bien courir.
Et tu fais quoi comme sport ?
En fait, je fais du sport avec tout, avec du sport avec mes amis et du coup c'est pour ça que j'aime bien.
Tu préfères courir tout seul ou avec tes copains-copines ?
Mes copains-copines.
Et vous faites quoi quand vous courez ?
On joue dans la cour.
Et vous jouez à quoi ?
On court, mais il n'y a pas de jouet.
Et du coup, vous faites quoi comme jeu si y a...
Bah, on court.
Vous faites juste courir ?
Ouais, parce qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a que la marelle, il n'y a que la marelle.
D'accord.
Après, il n'y a plus de jeu.
Et est-ce que tu joues à loup, chat perché, tout
non, ça ? Non, je ne joue pas ça.
Vous faites juste courir ?
Ouais, j'y pense pas à ça à l'école.
Et tu aimes bien courir pour jouer ?
Oui.
T'es pas épuisée après ?
Fatiguée ? Si, un peu.
Mais c'est pas grave, t'aimes
c'est
bien courir.
C'est pas grave, ouais.
Voilà, c'était mignon tout plein.
Ouais,
ouais. Du coup, tu joues. C'est très mignon.
Je vous garantis, il est pas aussi sage qu'il en a l'air. Mais je vous fais des gros bisous.
Il a quel âge, c'est plus
4 ans. Et ah, 4 il nous ans. Écoute, alors on peut lui faire un gros bisou.
Wow,
bah, dis-toi pas toi!
Et juste, on peut intervenir. Moi, il y a un petit truc, ça me fait penser, cette histoire de courir un peu comme ça non-stop, à J'avais lu ça dans la revue Jeff Clack, une chouette revue française, et en fait, il parlait d'un sorte de marathon dans un quartier de New York complètement absurde, où enfin, c'est plus qu'un marathon, c'est que je ne sais pas c'est combien de milliers de kilomètres, mais en fait, dans un seul pâté de maison, si on veut. Et donc, en fait, les marathoniens, marathoniennes courent comme ça pendant quelque chose comme 30, 40 ou 50 jours. Alors, je pense qu'ils font des pauses et ils dorment. J'espère, mais ils font que ça pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, à voir juste un bout de quartier comme ça. Voilà, il y a des...
Il y a des gens fous. Il y a des gens fous.
Complètement.
Bah du coup, ouais. Donc là, vous avez entendu donc Gabriel qui adore courir avec ses copains, copines. Voilà. Ils font juste courir, voilà, ils se dépensent bien. Donc les pauvres, apparemment, ils ont de jeux dans la cour de récréation. C'est pas, c'est bizarre. Ils ont pas de ballon.
Mais... Il faut peut-être changer d'école, ton petit neveu, là.
C'est bah quoi, c'est ça, ça ouais. Bah, avec le corps,
même. C'était un peu triste quand même. Même j'ai pas de jeu.
Je
courir en rond.
C'est ça qu'avec le coronavirus, normalement, ils ont plus les jouets, ballons, tout ça. Mais du coup, je sais pas, j'ai pas réussi à comprendre si c'était parce que ils parlaient déjà de ça ou si à l'époque, il y avait déjà apparemment pas de jouets. Mais bon. Du coup, il est fatigué quand il court, mais ça c'est pas grave. Et effectivement, je me souviens quand j'étais enfant que cette fatigue ne me gênait pas car je m'amusais avec mes amis. Maintenant, cette fatigue me fatigue avant même de courir, c'est dire. Donc, passons à une deuxième interview, celle de mon copain Corentin, 21 ans, qui lui court de façon professionnelle dans un club et de façon personnelle pour son pur plaisir. Il nous décrit en 3 minutes 23 ce que le fait de courir peut provoquer comme émotion et sensation. On l'écoute.
Salut, je m'appelle Corentin, j'ai 21 ans et je pratique la course à pied depuis bientôt 5 ans. Mais pourquoi courir ? Car cela me permet de m'épanouir et d'aller de l'avant. En courant, je ressens du plaisir. Un plaisir que l'on éprouve lors d'une activité physique qui se manifeste par la libération d'endorphines. Mais c'est quoi l'endorphine ? C'est une substance libérée par le cerveau, comparable à une prise de drogue. Ouais, pour moi la course à pied, c'est comme une drogue. Lorsque je cours de longues distances, il m'arrive de n'avoir jamais envie de m'arrêter car je ressens une sensation merveilleuse de liberté et de bien-être. La course à pied, c'est un moyen d'évasion et de tranquillité. La course m'a également permis de faire des rencontres. Quand je m'entraîne, je préfère être seul, être bien tranquille et écouter ma musique. Mais les week-ends, je participe à des courses organisées dans le Hainaut, à l'amicale des courses sur route du Hainaut occidental, ou plus simplement, à l'accro, ce qui me permet de sympathiser avec quelques personnes. C'est souvent motivant, et on partage ainsi un moment de quiétude et d'amusement, tout en se défoulant. Courir avec des gens, à l'accro, ou même à des courses plus importantes comme les 20 km de Bruxelles, ou au trail de la Côte d'Opale en France, me pousse à me dépasser, car je suis principalement en compétition contre moi-même. En courant, je parviens à mieux contrôler mes émotions. La course me permet de me dépenser lorsque j'ai besoin de me décompresser, ou de déstresser. Courir me permet de concentrer mes ondes négatives comme positives, en les exprimant sous une forme canalisée, afin de me permettre de me surpasser le mieux possible. Mentalement, physiquement, mais aussi émotionnellement, il faut en baver pour évoluer. Mais qu'importe les épreuves, si l'on endure tout ça, c'est pour y arriver. Courir, c'est un défi que je me suis lancé en juillet 2015. C'est de la violence des obstacles et des chiens secs de la vie que naît bien souvent l'obligation de se relever et l'envie de dévorer le monde. C'est le moteur de la rage que l'on va y mettre pour aller de l'avant. C'est pareil pour la course. Le vrai challenge, il est là. Au début, on se sent sûr de soi, presque puissant, optimiste, prêt à tout pour avancer. Et puis, soudain, sans qu'on le réalise immédiatement, une faiblesse se faufile dans notre cœur et se propage dans tout le corps pour devenir douleur. La fatigue nous surprend, notre souffle se fait court et l'envie d'abandonner, de se ranger sur le bas-côté et de laisser nos proches continuer sans nous, nous achève. Et pourtant, une petite voix nous murmure de persévérer, d'avancer, d'ignorer la douleur ou bien de la surmonter. Alors, durant quelques minutes, on se sent souffrant et puis, au fur et à mesure, encore une fois sans qu'on le réalise immédiatement, la souffrance nous quitte et une force venue de nulle part s'insinue en nous et nous redonne l'élan. Et à chaque fois, cela recommence. La fatigue, la souffrance, les douleurs et les obstacles seront nombreux, mais ils sont tout sauf insurmontables, et le résultat sera d'autant plus appréciable. Nous ne sommes limités que par une seule chose pour parvenir à tenir notre engagement, et c'est notre motivation. Atteindre son objectif, accomplir l'exploit d'y être arrivé, pour ressentir la fierté d'y être parvenu, malgré les difficultés rencontrées, pouvoir regarder en arrière et observer le chemin parcouru pour en arriver là et ne rien regretter. Pour moi, courir, c'est toutes ces choses qui réunies font de vous quelqu'un de nouveau. Je me considère comme un autre homme maintenant. Plus fort, plus sûr de moi. Si maintenant vous vous lancez dans la pratique d'un sport, surtout, ne lâchez rien. Faites de vos faiblesses une force. N'abandonnez jamais. Vous pouvez être qui vous voulez. Le succès sera au rendez-vous. Et à ce moment-là, la fierté d'y être parvenu remplacera tous les sentiments et les échecs que vous avez pu affronter jusque-là. Balayerez en un clin d'œil tous les ressentiments et les peurs qui pouvaient vous assaillir jusqu'ici. J'ai peut-être commencé la course à pied pour les mauvaises raisons, mais j'en suis sorti plus fort. Mais il ne faut pas pour autant que cela devienne un mouvement mécanique. Il faut avant tout courir pour son plaisir.
Donc voilà, merci Corentin pour cette belle description détaillée.
J'ai presque envie de courir, quoi.
Non, mais en fait, voilà, ça aura peut-être motivé. Tu vois, j'arrive même pas à le dire, je suis pas motivée. Ça aura peut-être motivé plus d'un auditeur à commencer la course à pied. Il faut en profiter, il fait beau temps. Mais bon, moi, ça m'a toujours pas motivée. Mais franchement, c'est une belle description détaillée de ce qu'on ressent lorsqu'on court, toute cette adrénaline qui nous pousse à continuer à nous dépasser. Donc en fait, la course, j'ai envie de faire un petit côté historique à ma chronique. Donc la course, ce n'est pas qu'un sport, donc un sport qui date d'hier, vous vous en doutez. De tout temps, l'homme court, que ce soit pour sauver sa vie, pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et donc, comme je viens de le dire, je voulais rajouter un petit point historique à ma chronique. Donc je vais revenir sur le mot marathon. Et pourquoi on appelle, comme le marathon, comme t'en as parlé tout à l'heure, Arthur, pourquoi on appelle une course de 42,195 km un marathon? Donc c'est très simple en fait. C'est le linguiste Michel Bréal qui a donné ce nom de marathon à la course à pied qui a été inventée spécialement pour les Jeux Olympiques de 1896 se déroulant à Athènes. Donc son nom est un hommage à ce brave messager grec Phidippides. Donc en effet, nous sommes sur la plage de Marathon en 490, donc c'était pas hier, lors de la première guerre médique. Une bataille fait rage entre d'un côté les Perses et de l'autre les Athéniens et les Platéens. Et la légende veut qu'en fait le messager grec Phidippides aurait parcouru Marathon-Athènes, donc cette distance entre Marathon et Athènes, pour annoncer la victoire contre les Perses. Donc ça faisait quand même 42 km à pied. Et il serait arrivé à bout de souffle, comme vous pouvez vous en douter. Et d'ailleurs, il en serait mort, mais il aurait quand même délivré son message juste avant de mourir. C'est bien quand même. Et si on veut être un petit peu tatillon, en fait, selon Hérodote, Phidippides, il aurait pas fait ça, mais il aurait parcouru environ 250 km, donc c'est encore pire, en 36 heures à peine, allant d'Athènes à Sparte pour demander de l'aide avant la bataille de Marathon. Et selon Plutarque, ce serait donc un certain Euclès qui aurait parcouru Athènes-Marathon, Marathon-Athènes pour annoncer la victoire. On ne saura jamais en fait vraiment qui avait fait cet exploit Marathon-Athènes, c'est vraiment Phidippides ou Euclès. Mais dans tous les cas, l'exploit reste le même, c'est quand même fort, donc moi je dis respect. Hein.
C'est clair.
Et donc voilà, c'est tout pour moi, je ne suis toujours pas motivée à courir, mais plutôt à marcher. C'est bien aussi marcher, je trouve, hein. Ça permet de mieux profiter du paysage qui nous entoure. Donc pour moi, ça ne sera pas en courant, mais plutôt en marchant.
Yes, merci Élise.
Bravo.
Merci Élise.
Je sais pas si c'est Corentin ou Gabi qui est le plus inspirant des deux. Ouais. Mais j'avoue que je suis comme toi, courir, il m'en faudrait un petit peu plus pour me motiver.
Ouais.
Pareil, moi je déteste courir et j'ai ça plutôt que ce que Corentin décrivait avec la randonnée. Et, et ça m'a rappelé aussi, en liant ça avec ce qu'expliquait Arthur, que quand j'étais à La Réunion, donc j'avais fait une randonnée, et c'était une des premières randonnées que j'avais faites, et j'étais épuisé, essoufflé en marchant, et je voyais des gars à côté de moi, ils faisaient ça en courant, quoi. Et ouais, ils couraient, les gars, donc tu vois, je pense que c'est pour ça qu'on comprend bien qu'on est né dans le plat pays, et qu'eux, ils sont pas nés dans le plat pays, mais plutôt le pays des montagnes.
Et là-bas, il y a la diagonale du fou, non?
Ben oui, c'est ça, et il y a c'est le grand raid, donc je sais pas si c'est ça la diagonale des fous, ouais. Et donc ils arrêtaient pas de parler de, donc à chaque gîte là où on dormait après les jours de randonnée, ils parlaient tout le temps du ultra trail, et en fait c'est une course donc qui allait se dérouler dans les semaines à venir. Et là j'ai regardé sur Wikipédia, c'est plus de 164 km de course dans les montagnes, et les gars ils font ça les meilleurs en 22 heures, et donc ils dorment pas, quoi. Ils courent, et puis après ils se posent, ils font une petite sieste 10 minutes et ils continuent à courir pendant 22 heures pour les meilleurs. Et après, c'était quoi? J'ai lu le temps limite pour finir le parcours est de 66 heures. Donc il y a des personnes qui courent pendant 66 heures d'affilée, quoi. Ouais.
J'ose pas imaginer. 66 heures.
Ouais. Et donc à La Réunion, tout le monde parle de ça tout le temps. Ouais. Et je connaissais pas du tout.
La souffrance et le plaisir, hein, c'est très proche.
Ouais. C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Faut souffrir pour s'offrir du plaisir.
Eh ben, dis donc. Trop bien pour ceux qui sont vraiment motivés à courir, mais je crois que moi c'est pas de sitôt que vous allez me voir faire un marathon, et de ce que j'ai compris Élise non plus.
Oula, non, pas du tout. C'est pas le genre de marathon que je fais, tu vois, c'est ma marathon série, film.
Oui, marathon culturel.
Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, c'est très belle transition. On va maintenant écouter une musique, pour rester dans la culture plutôt, qui s'appelle De la terre jusqu'au courant. Boulet. En fait, comme chaque émission, on pioche au hasard un mot pour faire nos chroniques, on pioche aussi ce mot pour trouver des musiques au hasard. Et du coup, ici, voilà, on découvre De la terre jusqu'au courant, des sœurs Boulet.
Qui sont québécoises.
Qui sont québécoises.
On écoute.
On écoute.
Ma maman m'a appris à construire des histoires qui ne finissent pas. Ensemble, on sait les vivre et les écrire. On les prête à qui en voudra. Mon père m'a appris à compter sur les autres comme sur mes doigts. À comprendre et à réconcilier les deux pôles à l'intérieur de moi. Je prends ce qu'on m'apprend de la terre jusqu'au courant, de l'eau comme de l'homme, ma sève et celle de la pomme. Tranquillement j'apprends à m'inventer. Avec nos mains et avec nos voix, celle du présent et du passé. Je me regarde et puis je nous vois. Je prends ce qu'on m'apprend de la terre jusqu'au courant, de l'eau comme de l'homme, ma sève et celle de la peur.
Et voilà, on écoutait donc De la terre jusqu'au courant, des sœurs Boulet qui sont québécoises, comme nous a dit Arthur.
Oui.
Alors maintenant, moi je vais vous parler aussi de... Enfin, c'est mon tour, c'est ma chronique. Je vais vous parler de comment moi j'ai pu interpréter le mot courant. Alors voilà, quand le mot courant est sorti du chapeau le mois passé, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est les courants marins. Comment ils se sont formés, comment ils fonctionnent, pourquoi il y a une marée haute et une marée basse, eh ben ça, en vrai, ça ne m'intéresse pas tellement. Désolée. Mais par contre, les légendes, les mythes, les histoires qui les accompagnent, celles qui racontent comment ils se sont formés et pourquoi ils existent, ça m'intéresse bien plus. Curieusement, en fouillant Internet, je n'ai pas trouvé tant de mythes qui nous racontent l'origine des courants marins. Alors oui, on peut trouver que Poséidon, dieu de la mer et des océans dans la mythologie grecque, contrôle ces courants. On peut aussi trouver dans les mythes nordiques que c'est Thor qui les aurait créés en buvant dans une corne. Mais c'est difficile de trouver une histoire suffisamment palpitante pour réjouir ma soif de savoir comment, bien avant l'avènement de la science, les gens pouvaient décrire et organiser le monde qui les entourait. Alors j'ai continué à fouiller, mais sans grand succès. Et je me suis finalement tournée vers deux autres histoires. Elles ne racontent pas à proprement parler des courants marins, mais ils y sont présents. La première histoire, bien connue, c'est celle de l'Atlantide.
située au-delà des colonnes d'Héraclès, Atlantis, qui est devenue en français Atlantide, est une île gigantesque que Poséidon, dieu des océans, reçoit lorsque les dieux se partagent la terre. C'est une région fabuleuse, aux contours indéterminés, bordée du royaume cimérien au nord et par le jardin des Hespérides au sud. Poséidon, il s'y unit avec Clito, une jeune mortelle autochtone. Clito, j'aurais pas pu l'inventer. Une jeune mortelle autochtone qui enfante 5 lignées de jumeaux masculins qui se partagent l'île en 10 royaumes dont ils deviennent les premiers souverains. L'île, elle tire elle-même son nom de l'aîné d'entre eux qui s'appelle Atlas, comme la mer qui l'entoure qui s'appelle l'Atlantique. Gouvernée par des souverains sages et modérés, les Atlantes, qui sont justes et vertueux, ils connaissent sur leur île un âge d'or qui les amène à édifier une cité idéale. Mais, progressivement, les descendants des premiers Atlantes deviennent de plus en plus expansionnistes. Et ils ont une frénésie de conquête et ils veulent multiplier les invasions. Cette expansion, elle est stoppée par Athènes, qui libère les peuples soumis à leur joug, tandis que Zeus punit les Atlantes, incapables de rester fidèles à leur origine divine. Zeus envoie Atlas dans un courant marin très fort qui finit par l'emmener dans les profondeurs de la mer et la ville est engloutie dans les flots. Voilà pour la première histoire. La seconde histoire, c'est une légende celte. C'est la légende d'Ys, une cité celte possédée par le roi légendaire qui s'appelle Gradlon au 5e siècle. Cette cité fut offerte à la fille de Gradlon, qui s'appelle Dahu, et qui y menait la grande vie. Fin de l'été, un étranger s'y introduit dans la cité et séduit la princesse. Puis, profitant de son sommeil, il s'empare de la clé attachée autour de son cou. Cette clé, elle permet d'ouvrir et fermer les écluses protégeant la ville des marais. L'étranger n'est autre que Taranis, le seigneur des vagues. Son souhait était que la cité d'Ys, engloutie sous les eaux, résiste à jamais à la chrétienté qui se répand partout dans la région. Après avoir sauvé sa fille de la noyade, Gradlon la jette à la mer pour apaiser la colère des dieux. Ys, la ville d'Ys, disparaît dans les vagues, tout comme Dahu, qui devient une sirène et rejoint son amant, le seigneur des vagues, Taranis. Alors ces deux légendes fascinantes proviennent de deux cultures différentes et pourtant elles sont terriblement liées. D'abord par le destin commun des villes dont elles parlent, mais aussi parce qu'elles sont diamétralement opposées. L'Atlantide, c'est devenu une déchéance et elle est punie par un dieu, alors que dans l'autre légende, c'est un dieu qui souhaite sauver Ys pour la préserver. Alors ma réflexion, la voilà. Pour comprendre le monde qui les entoure, les humains se créent des récits qui expliquent les phénomènes qu'ils vivent. Mais si dans nos récits collectifs, on fait souvent référence à des dieux ou à d'autres entités surpuissantes dont la volonté est plus forte que tout, la question avec laquelle je voudrais vous laisser, chers amis et amies, et puis chers auditeurs et auditrices, c'est celle de notre pouvoir d'action. Dans quelle mesure l'espèce humaine peut agir sur le monde qui l'entoure? Et dans quelle mesure peut-on seulement subir les événements et les phénomènes auxquels on fait face? Et voilà ma chronique.
Merci Adeline.
Merci beaucoup Adeline pour ton histoire, franchement.
C'était beau, les légendes. J'aime beaucoup les légendes, c'est super intéressant.
Tu nous as voyagé, hein.
Ouais. Ouais, bah moi vraiment ça me passionne ces trucs des mythes et tout, et je trouve qu'il y a encore moyen d'en apprendre quelque chose. Alors évidemment, je pense pas qu'il faut qu'on essaye de répondre à tes questions de. Bah, du pouvoir d'action de l'humain sur son environnement ici, parce qu'à mon avis, on devrait plutôt faire ça en mode prenez une feuille de papier, vous avez 4 heures. Ouais. Mais enfin, je trouve que c'est une invitation à la réflexion.
Mmh. C'est vrai. Ouais.
Et d'ailleurs, Adeline, il y a un moment qui t'a répondu. parce qu'Adeline demandait des idées de mythes grecs et je lui ai dit que ma maman était professeure de latin et grec. Et du coup, elle m'a répondu, mais un peu trop tard, Adeline.
Effectivement, ah ouais. Elle a répondu quoi comme ça, juste pour savoir? Elle avait donné quoi comme idée?
Elle avait...
Je pense aussi tout d'un coup au mythe de Charybde et Scylla, des courants très forts qui avaient...
Je sais pas si tu connais, Élise.
Ouais, si. Entre dans le Lys, l'Odyssée de
Lys. Le sud de l'Italie et la Sicile. Bon, ça aussi, c'est une expression de Charybde dans Scylla. Ça peut être intéressant.
J'ai rien compris.
Si j'ai regardé un peu, je peux vous expliquer vite fait. En gros, c'est un détroit entre l'Italie et la Sicile. Et il y a deux mythes. Il y a le mythe de Charybde, je crois, ouais, où c'est une personne qui s'est aussi fait punir par Zeus, mais je ne sais plus pour quelle raison, et qui est devenue un espèce d'énorme tourbillon dans la mer, d'un côté du détroit. Et de l'autre côté, c'est Scylla, qui est devenue, je ne sais plus par quel moyen, elle est devenue un espèce de monstre. Et du coup, dans l'Odyssée d'Ulysse, il doit passer par ce détroit. Et il doit choisir entre les deux mots. Et il choisit d'affronter Scylla plutôt que Charybde.
Ah ouais,
merci.
Ça. J'ai passé l'après-midi à me renseigner, les gars.
On en apprend avec Radio Panique. Hein.
C'est ça.
Ok, on passe directement. Merci Adeline. On passe directement alors avec une petite musique. Donc, je ne sais plus qui proposait ça. Sûrement Adeline.
Le hasard. Hein.
Le hasard. Le hasard hispanophone, parce qu'on va écouter donc de Mirella, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Ouais, c'est ça.
La corriente.
La corriente.
Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Todo el mundo, deja que hablen, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando, total aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo. Pongo yo. Deja que te lleve la corriente. 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 Y que te fluya lentamente.
Alors, on écoutait la corriente de Mirella, c'est ça. Donc, rien à faire, n'empêche, les musiques espagnoles, ça fait quand même bien bouger, quoi.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Et donc, j'en viens à ma chronique. Donc voilà, ben moi, dès que j'ai eu le thème de l'émission, donc qui était courant en tête, j'avais plusieurs idées. Donc ma première idée, c'était déjà, c'était courant. Ben c'est une histoire un peu d'homonyme parce que courant, on peut l'interpréter aussi de différentes manières. On va me dire, c'est le but de l'émission, mais on peut penser à cours de récréation, à courir comme Élise nous l'a fait, au courant comme Adeline nous l'a présenté. Et il y a aussi dans les homonymes, si comme par exemple vous connaissez vert, le ver de terre, le vert, la couleur, etc. Et donc j'avais pensé à ça dans un premier temps, aux homonymes. Et puis après je me suis dit, ah, je ferais peut-être bien l'histoire de la fontaine, le lièvre, la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et du coup je me suis dit, bah attends, c'est l'émission Bonjour ça va, on peut faire ce qu'on veut, non? Je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc, je me suis dit, ben, allons intégrer les deux ensemble et faisons une réinterprétation de la fable de La Fontaine avec des homonymes. Et donc, voilà, je vous propose ici un petit texte revu, un peu plus contemporain, donc du Lièvre et la Tortue de La Fontaine, avec intégré par des homonymes liés au terme courant. Donc, voilà le texte. Est-ce que vous êtes prêts? Comme ça, je suis sûr que vous m'entendez encore.
Ouais, magique, encore.
Ok.
Oui, parfait.
Donc, ce petit texte, soyez indulgents. Alors, un léger courant d'air frais effleura le cou du jeune Arturo. Cette simple brise d'air suffit à le réveiller. Arturo, surnommé Arturito, la tortue, prit ses béquilles, se leva de son lit, referma la fenêtre et observa au-delà de sa cour le court cours d'eau pris par les courants. Au-dessus de lui, sur le lit superposé, son frère aîné que l'on surnomme le lévrier. Comme à son habitude, ce dernier ronfla d'une voix grasse, sans aucune grâce, tel le chant d'une canne que l'on tabasse sur la voie à coups de canne. « Lève-toi !» lui cria Arturito. « Tu vas arriver en retard pour la rentrée des cours et tu devras encore y aller en courant. »« Mêle-toi de tes affaires !» lui grogna son frère aîné. « De toute façon, j'y arriverai à mon cours, et même avant toi. Es-tu au courant que tu n'as plus de jambes ?» Énervé, le jeune Arturito détesta qu'on fasse des remarques sur le fait qu'il avait perdu ses jambes. Dès lors, il prit ses jambes à son cou et lui répliqua « Non, je te parie que j'arriverai avant toi au lycée. » Moqueur, l'aîné accepta le pari, certain d'une victoire nette. Il pouvait dès lors se rendormir quelques instants. Dormir, juste quelques instants. Arturito sortit de leur appartement vers l'école en s'appuyant par à-coups sur ses béquilles. Béquille gauche, un pas. Béquille droite, deux pas. Encore 2000 pas pour arriver à l'école. Et pour atteindre la cour de son école, il lui fallait traverser la courte allée pour aller le long du cours d'eau. Par étapes de difficulté, son premier but était d'arriver en haut de la butte tout en évitant la boue au bout du chemin. Une fois cela fait, en sueur, le cœur battant à pleine mesure tel un chant de cœur, il profita du plat de la plaine le long de la culture en chant pour reprendre le plein d'énergie afin de plonger dans la dense forêt obscure où les oiseaux y chantent et y dansent. Béquille gauche, béquille droite, encore 1000 pas. Il n'a que peu de temps pour profiter de ce magnifique bois, composé de tant d'êtres vivants, d'êtres et de chênes cultivés en chêne pour y faire du bois. Frustré de ne pas avoir pu profiter de ce ciel vert, il suit son chemin vers l'école. Peu de pas lui restent, il peut le faire. Toujours pas de signe de son frère aîné, il va sûrement gagner. De son côté, le levrier, donc le frère aîné, se réveilla près d'une grosse gueule de bois. Ses efforts pour se souvenir de la soirée de la veille étaient vains. Il se rappelait jusqu'aux environs de 20h, après plusieurs verres de vin, il s'était saisi d'une barre de fer dans ce bar et avait cassé la dent de ce con de fils de dentiste. Un comble qui le combla de joie. Après vérification de son reflet dans la salle de bain, il prit une douche et se rappela que c'était le jour de la rentrée. Son sang rempli de vin, car il était encore sous et avait dépensé tous ses sous et donc sans moyen de prendre le car. Il prit donc ses souliers et il décide d'y aller en courant. Il rattraperait bien son frère à béquille, qui n'allait de toute façon pas très vite. Donc traversant la cour pour longer le cours d'eau, arrivé vers les hauteurs de la butte, au bout, il tomba dans la boue où gisaient des vers. Il courut à travers les hêtres et les chênes verts. L'école en ligne de mire, il passa à travers les couloirs pour rejoindre sa classe. Vit son frère assis tranquillement sur son pupitre. Il avait perdu. Il rentra dans sa classe et s'excusa auprès de son professeur, M. Fontaine, qui lui dit « Ben, félicitations, M. Levin, Vous êtes en retard pour votre premier cours sur les courants philosophiques. Oui, lui répondit Levin, j'ai couru. Monsieur Fontaine lui dit alors, monsieur, rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Waouh,
et voilà.
Quelle belle
Bravo.
Histoire.
Ça ne devait pas être facile à lire.
Ah ouais.
C'est impressionnant ce que t'as fait, c'est trop bien.
Quel talent.
Tu l'as écrit toi-même.
Ouais, j'ai écrit moi-même. Et c'était rien de sérieux, il faut partir à point parce que j'avais pas beaucoup le temps. Et puis je me suis rappelé de cette morale. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû mieux préparer. Mais ça passe bien, donc je suis content.
Ouais, c'est bien. Cool.
Pour le prénom Arturito, c'est parce que tu regardes la Casa des Papel ou
Ben écoute, j'y ai pensé après, mais c'est un mot qui pensait à tortue. Et donc, Torturito, Arturito. Voilà, c'était juste
ah
ça.
Ah ouais. Non, oui. J'ai pensé la même chose, Élise.
Ah, ça me rassure.
C'est trop bien, Arnaud, merci. Il me
Franchement, merci beaucoup.
Que Arthur.
Arthur qui n'a pas de. Qui n'a pas de
un petit mot à nous dire, peut-être pour nous tenir au courant de quelque chose.
Oui, voilà, vraiment
qu'est-ce
une autre
se passe
façon
à Radio Panique
d'interpréter le mot courant. Et qu'est-ce qui se passe à Radio Panique? Parce que, et ça tombe très bien, puisque, en fait, dans cette émission, Adeline a parlé du pouvoir d'action à un moment donné, nous invitant à un travail philosophique. Eh bien, j'attrape cette expression. Au vol, puisque pouvoir d'action est un peu, comment dire, une approche à Radio Panique qui est liée à ce qu'on appelle l'éducation permanente. Alors, je vais quand même donner une piste, mais savez-vous ce qu'est l'éducation permanente? Et si oui, pouvez-vous la définir? Vous avez
Vous êtes après. Oui, l'éducation permanente, bah, c'est, est-ce que c'est pas dérivé de l'éducation populaire et que c'est l'idée que les classes plus populaires s'éduquaient entre elles pour s'instruire et se faire de l'empowerment, comme on dit.
Oh yeah.
C'est un peu ça.
C'est tout à fait ça. Dans les années 60, le mouvement ouvrier, effectivement, qui n'était pas allé loin dans les études, puisqu'on les appelait à l'usine, entre autres, eh bien, c'était une manière, voilà, de pouvoir un peu s'éduquer entre soi pour pouvoir comprendre le monde dans lequel ils vivent et pour pouvoir agir sur ce monde-là, donc ce fameux pouvoir d'agir. Et donc l'éducation populaire a pris aussi l'expression éducation permanente. Et en Belgique, depuis la fin des années 70, a un décret qui a été écrit, enfin en tout cas voté par la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui subventionne comme ça quelques centaines d'associations, quelques 300 si je me souviens bien, dont Radio Panique depuis un peu plus de 10 ans, on va dire fin des années 2000. Et donc à Radio Panique, nous faisons de l'éducation permanente, vous faites excellent, de l'éducation permanente. Soit voilà, en fait, si je raconte tout ça et si c'est pour mettre au courant, c'est parce que Radio Panique actuellement finit ce qu'on appelle des contrats programmes, ce sont des périodes de 5 ans de financement renouvelable, et on est à la fin du deuxième contrat programme, et donc on fait un bilan des 5 dernières années, donc depuis 2016 jusqu'à cette année 2020, et on regarde un peu tout ce qui a été fait en termes de production, d'émissions, en termes de manière de s'émanciper. On parlait d'empowerment, donc c'est un peu cette idée d'émancipation citoyenne. Comment est-ce que chacun, chacune, au sein de la radio, et on parle de 200-250 bénévoles, et bien chacun, chacune utilise l'outil radiophonique, devient autonome, comprend comment ça fonctionne, comment on fait une émission, comment on réfléchit sur des sujets de société, et pour produire comme ça des émissions dont certaines, on les valorise en éducation permanente puisqu'elles ont un intérêt en termes de développement de l'esprit critique, de réflexion sur la société à travers différents sujets. Et donc voilà, moi actuellement, outre le fait que je vous mets au courant de ce qui se passe à Radio Panique, je me mets au courant en fait des différentes émissions valorisées en éducation permanente, de ce qu'elles ont fait ces dernières années pour voilà, démontrer que nous sommes en plein droit face à ce décret éducation permanente et ses subsides. Voilà.
Waouh, gros boulot.
Ouais.
Mais c'est très intéressant de voir du coup entre les 5 ans 2011-2015 et les 5 ans 2016-2020, comment la radio évolue et comment elle une sorte d'ébullition
je veux pas sortir 25 000 chiffres, mais je prendrais juste le cas des studios volants, donc le fait de ce qu'on fait un peu en ce moment par défaut, on va dire, mais le fait d'avoir sortir des studios de la radio et de faire de la radio ailleurs, et bien si dans le décret, enfin dans le contrat programme, dans la période 2011-2015, on sortait peut-être 7 à 10 fois le studio volant par an. Aujourd'hui, en 2016, entre 2016 et 2020, c'est une moyenne de 40 à 50 sorties par an, ou à peu près une par semaine. Et donc, ça démontre à quel point les gens utilisent cet outil. Et voilà.
Et est-ce que tu sens aussi le retour de la radio ? Donc, ces dernières années, toi qui es dans la radio depuis plus longtemps, est-ce que tu sens, j'ai l'impression que à travers les podcasts, qu'il y a un peu un renouveau de la radio ?
Tout à fait. Vous êtes l'exemple parfait, puisque en fait, si la télé est devenue un média de personnes d'un âge avancé, la jeune génération n'est pas du tout. Enfin, je pense qu'il y a très peu de jeunes qui regardent la télévision. Et je parle vraiment de regarder la télévision en direct. Et pas sur internet avec les replays et autres. Par contre, la radio et grâce effectivement, comme tu l'as dit Arnaud, au boom des podcasts, et ben les gens qui ont la vingtaine aujourd'hui s'intéressent aux productions sonores, aux productions radiophoniques, et on a beaucoup de cas de gens qui faisaient de la web radio, des podcasts, et qui ont frappé à la porte de Radio Panique en disant on veut faire de la radio sur la bande FM. Donc voilà, la radio reste et demeure un média de personnes plus jeunes. Donc et si on regarde Radio Panique, on a autant des gens qui ont connu la grande mouvance des radios libres dans les années 80-90, mais aussi des gens comme vous qui avez la vingtaine et qui êtes intéressés par la radio.
Les buggers avaient donc tort. Vidéo n'a pas tué la radio star.
Effectivement.
Vous avez la règle.
Et à quoi c'est dur ? Excuse-moi, à quoi c'est dur, Arthur ?
L'attrait pour l'audio, les podcasts et autres, ça, j'avoue, je suis assez assez étonné parce que on est quand même tellement dans un monde de visuels, d'images, que les gens soient intéressés par produire du son et pas y mettre des images, même si s'ajoute le côté webcam, enfin en tout cas il y a aussi un intérêt pour montrer le podcast audio, mais j'avoue que je n'ai pas d'explication.
Peut-être,
je suis
peut-être le côté plus accessible aussi de la chose, la radio est plus accessible que la télé sans doute.
Très bon point, c'est vrai que ça coûte pas très cher d'avoir un micro.
Ben, tu peux le faire avec ton téléphone en plus, donc non, la haute technologie.
C'est vrai, c'est un bon point.
Au-delà d'en faire, pour en écouter, il y a aussi le fait que tu peux en écouter en faisant autre chose, alors que quand tu regardes quelque chose, en général, ton attention doit être complètement attirée par ça. Enfin, tu peux pas courir et en même temps regarder une vidéo, mais tu peux courir en écoutant un podcast. Pareil pour les transports en commun, la cuisine et plein d'autres activités comme ça.
C'est vrai. Est-ce que Corentin écoute les web podcasts en courant
Non, il écoute plus de la musique pour se booster. Mais je voulais dire d'écouter des podcasts de Radio Panique.
De Radio Panique,
faut préciser. Ah bah oui, quand même.
105.4.
Très belle idée. Et ben du coup, sur ce merveilleux conseil d'écouter un peu plus la radio et d'écouter un petit peu plus Radio Panique, se clôture notre émission.
Oui.
Cette merveilleuse émission Bonjour, ça va, dans laquelle on interprète chaque mois un mot. Et il me semble que voici venu le moment de tirer au sort le mot pour la prochaine fois.
On n'a pas un petit bruit de roulette là, directement là. On n'avait pas enregistré un jingle de roulette comme ça.
Si. Je pense pas qu'on l'ait, mais on peut faire un roulement de tambour.
Au limite, on peut le faire en live directement. Tout est prêt, Adeline ?
Ouais, tout est prêt.
Allez. Roulement de tambour ou de bruitage, tout ça. Le mot pour l'émission prochaine sera. Adeline ?
Ouais, sera. Bouillir.
Bouillir. Ça va.
On a un mois pour.
On bouillonne,
on va réfléchir.
On bouillonne la patience.
Les idées bouillonnent aussi, donc.
Ouais. Allez, ça.
Du coup, chers auditeurs, chères auditrices, On va vous dire au revoir et rendez-vous le mois prochain. Donc l'émission sera le 11 juin, toujours sur 105.4 FM. On espère être de retour dans nos studios et sinon, on continuera en mode confinement. D'ici là, portez-vous bien et puis au revoir tout le monde.
Merci à tout le monde. Merci Arthur. Voilà. Merci Asra.
Il me semble aussi conclure sur une musique.
Merci Arnaud.
Élise, tu voulais mettre une musique.
Parce que je sais pas, j'aime bien cette musique de Radiohead, Creep. Et il y a le mot Ren.
Je voulais juste passer un big up.
Ren courir. Tu voulais dire quelque chose, Achraf?
Ouais, je voulais juste un petit bonjour. Donc voilà, je voulais passer un bonjour à ma mère qui m'écoute et mes tantes. Voilà.
Trop bien.
À tous. Bah, bisous à
elle. Trop bien, bonjour et au revoir à elle.
Oui, du coup.
Termine, mais merci de nous avoir écoutés et au mois prochain.
Ciao, ciao.
Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a